qui pèse sur les épaules de l'individu dans notre société.
Oui, Charlotte, on a beaucoup parlé cette semaine, justement, de l'alcool. Il était question, vous savez, de cet avertissement à mettre sur les bouteilles avec toujours cet objectif, responsabiliser l'individu. On connaît tous d'ailleurs cette phrase qu'on entend souvent avec l'alcool, à consommer avec modération, une espèce d'invitation à la sagesse personnelle. Ce qu'on dit moins à propos de cette phrase, c'est qui l'a écrite. En fait, une grande partie des campagnes de prévention sur l'alcool sont financées en fait par les producteurs d'alcool eux-mêmes. Et en fait, ces mêmes acteurs, là où ils nous invitent à consommer avec modération, mais ils s'opposent avec constance aux mesures dont l'OMS dit qu'elles fonctionnent vraiment, comme par exemple encadrer la publicité, agir sur les prix, réduire la disponibilité. Ce que défendent les producteurs d'alcool, en fait, c'est une invitation à la vertu privée. Mais rien, par contre, pour la règle commune. L'idée derrière, c'est qu'en fait, ce sont les individus qui sont responsables et non pas la société.
Et ce poids de la responsabilité qu'on fait peser sur les épaules de nous, des individus, ça ne concerne pas que la question de l'alcool. Et c'est aussi pour ça que vous vouliez nous en parler ce matin.
Tout à fait. C'est pas un cas isolé. La notion, par exemple, d'empreinte carbone individuelle. Vous savez, celle qui nous fait compter nos douches et nos trajets en avion. Eh bien, figurez-vous, elle a été popularisée en 2004 par une campagne de BP, la compagnie pétrolière. Autre exemple, le citoyen qui trie consciencieusement ses déchets, lui, est né dans les années 50 d'une campagne américaine financée par les fabricants d'emballages eux-mêmes, au moment justement où on basculait dans le tout jetable. Et on retrouve encore aujourd'hui quelque chose de similaire dans le milieu professionnel. Vous savez, quand les gens s'épuisent au travail, on parle beaucoup de burn-out, eh bien on leur propose par exemple des ateliers de gestion du stress. En fait, une bonne manière de ne pas toucher au système, c'est-à-dire à la charge de travail. À chaque fois, le même scénario. Un problème collectif produit par une organisation économique, par de la publicité, par des normes sociales, est ramené à une question individuel. Et celui qui craque, eh bien, devient tout simplement quelqu'un qui n'a pas su se tenir. Selon ce modèle, par exemple, l'alcoolique, c'est celui qui n'a pas su se modérer. Et le réchauffement climatique, eh bien, il est dû à la faiblesse de la volonté des individus.
Ce que vous voulez dire, Mathieu, c'est qu'en fait, on oublie de parler de la responsabilité collective.
Exactement. Durkheim, il y a plus d'un siècle, avait fondé la science de la sociologie sur cette intuition. En fait, même ce qu'il y a de plus intime, même des choses comme, par exemple, le désespoir, eh bien, obéissent à des mécanismes sociaux. Et ça, nous l'avons oublié. Foucault, dans la même veine, décrivait un pouvoir qui ne nous commande plus, mais qui fait de chacun de nous l'entrepreneur de lui-même, comptable de sa santé, de sa forme, de son bilan carbone. Nous voilà tous, en fait, petits gestionnaires de notre propre vertu, et ça, c'est épuisant. Alain Ehrenberg, dans son livre « La fatigue d'être soi », a montré justement le prix de cette fatigue. Quand tout repose sur l'individu souverain, ben l'échec cesse d'être une injustice pour devenir tout simplement une espèce de pathologie personnelle. L'idée est toujours la même, nous sommes individuellement responsables de ce qui nous arrive. Et il y a d'ailleurs quelque chose de curieux dans cette morale. On nous demande certes d'être responsables, oui, mais essentiellement en fait comme consommateurs. On ne nous demande pas tellement d'être responsable comme électeur, comme travailleur ou comme citoyen organisé. Notre responsabilité, en fait, est reconnue exactement là où elle est, en fait, sans effet. La philosophe américaine Iris Marion Young proposait une distinction que je trouve intéressante à ce sujet. Pour elle, on doit distinguer la culpabilité, qui, elle, regarde en arrière, qui cherche un coupable, qui essaye de désigner quelqu'un, de la responsabilité politique, qui, elle, va essayer de regarder en avant, qui est partagée et qui demande non pas qui a fauté, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut changer ensemble. Les injustices structurelles relèvent en fait souvent du second registre. Chercher un coupable individuel n'est pas seulement injuste, c'est une erreur de raisonnement.
Mais alors Mathieu, est-ce qu'il faut pour autant tout remettre sur le système et complètement oublier notre responsabilité individuelle?
Ben non, en effet, l'inverse assurément est aussi un piège confortable. Si tout est la faute du système, alors plus personne ne doit rien à personne et on peut continuer tranquillement à faire ce qu'on veut sans se poser de questions. La question n'est donc peut-être pas de choisir entre l'individu ou le système, elle est peut-être de changer le rôle qu'on donne à nos gestes individuels. Un geste privé, seul, dans notre cuisine, en fait, ne pèse rien. Mais le même geste, rendu visible, rendu collectif, organisé dans une association, un syndicat, une coopérative, là, ça devient une force. En fait, si on regarde en arrière, hein, notre société a interdit, par exemple, la publicité pour le tabac, ou a imposé la ceinture de sécurité, ou a retiré le plomb de l'essence. Et ça, on l'a pas fait en demandant à chacun d'être plus vertueux. Hein. On n'a pas demandé à l'automobiliste de faire attention au volant. On a changé les règles. Et personne aujourd'hui, en fait, n'y voit une atteinte à sa liberté. Alors peut-être, voilà, cette proposition, hein, si on arrêtait de faire tout peser sur les épaules de l'individu, non pas pour lui retirer sa responsabilité, mais pour la lui rendre enfin utile.